pas. Comme on a eu un problème d'internet, oui. Donc, il est sur le site. Petit rappel rapide, ça va? Vous dormez pas, j'espère, hein? Parce que. Alors, je sais que c'est un type de prédication, voilà, qui est un petit peu particulier. Ça ressemble plus à une étude, mais ça nous fait du bien de nous plonger parfois en profondeur dans les textes. On va pas vite, on va lire pas tout à fait deux versets ce matin, mais on va essayer d'en sortir certains trésors. Petit rappel, l'Apocalypse est le livre le plus lu de la Bible. Ah. Pas du tout, c'est celui qui est le moins lu du Nouveau Testament. Et je voudrais vous encourager, encore le redire, c'est un livre que nous avons besoin de lire parce il fait partie de la parole de Dieu. Il a été écrit vers la fin du 1er siècle, je te laisse gérer les slides, vers l'an 90, entre 90 et 95, sous le règne de l'empereur Domitien. On avait parcouru un petit peu les empereurs de la naissance de Jésus jusqu'à Domitien la dernière fois. Et c'est sous l'empereur Domitien. Et ce qu'on peut rappeler de lui, c'est que c'est lui qui a mis en avant de manière très forte le culte de l'empereur. Et il exigeait qu'on l'appelle Seigneur et Dieu. Donc c'est important de comprendre ça aussi parfois par rapport à certaines paroles que Jean va écrire dans le livre de l'Apocalypse. Jean était alors enfermé sur l'île de Patmos, qui se situe au large de la Turquie, de l'actuelle Turquie, et il avait environ 80 ans. Jean écrit aux églises qui sont sous sa supervision apostolique, et donc c'est les sept églises que l'on retrouve dans le chapitre 2, dans le chapitre 3, et ce sont des églises qui subissent la persécution et qui ont besoin d'être encouragés, exhortés à persévérer dans la foi. Dès le début, Jean explicite que c'est Jésus qui inspire directement ce livre. C'était un fort encouragement pour nous à le lire, et que ce livre s'inscrit dans la lignée des écrits prophétiques qui sont inspirés de la part de Dieu. Voilà, un petit mot sur ce qu'on a dit. La dernière fois, il y a plus, mais vous irez écouter si vous voulez en savoir plus. Alors on continue, verset 4. Jean aux sept églises qui sont en Asie. On peut remontrer la carte. Donc Patmos, vous voyez, c'est là, et les églises, le chemin des églises. Vous avez la liste. Dans le même chapitre, au chapitre 1, au verset 11, donc Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Et en fait, je crois que je l'avais déjà dit la dernière fois, elles ne sont pas citées dans un ordre aléatoire. Elles sont citées dans un ordre précis, où quand on part de Patmos, hop, la première que l'on va rencontrer, c'est bien Éphèse. Et c'est donc la première lettre du chapitre 2. Et puis ensuite, si on est un voyageur et qu'on va vers le nord, eh bien, naturellement, on va se diriger vers Smyrne, puis vers Pergame, puis vers Thyatire, Sardes, Philadelphie, et on finit à Laodicée. C'était un parcours logique. Dans cette région-là, ce ne sont pas les seules églises qu'il y avait. On connaît celle de Troas si on lit Acte 20, verset 5. On connaît aussi celle de Colosse et de Hiérapolis qui sont pas très loin de Laodicée. Et on trouve ça dans Colossiens 4, 13. Sauf que ces églises-là, elles n'étaient pas sous la supervision de Jean, elles étaient plus sous la supervision de Paul et de Timothée. Et Jean donc écrit à ces sept églises, car elles sont sous sa supervision, mais pas que. D'accord? Il ne va pas écrire seulement à elles, parce que comme on l'a vu un petit peu la dernière fois, Jean, il écrit à sept églises. Et sept, dans l'Apocalypse et en général dans la Bible, c'est le chiffre de la perfection et de la plénitude. Jean écrit donc à toutes les églises en même temps de la province d'Asie et par extension à toutes les églises en tout lieu et en tout temps. Et donc, il nous écrit à nous aussi. C'est pour ça qu'il est important de lire ce livre. Petite remarque par rapport à ça, pour bien montrer que Jean écrit à tout le monde. Eh bien, quand on lit le chapitre 2 et le chapitre 3, eh bien, on remarque que chacune des lettres se termine par une expression, et c'est que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, et pas à l'église d'Éphèse, de Philadelphie, de Smyrne. C'est bien aux églises que l'Apocalypse s'adresse. Et on a aussi une mention un peu particulière en Apocalypse 2, 23, c'est toutes les églises connaîtront. Donc on voit bien que le livre s'adresse en premier à cette communauté, mais que par extension, il s'adresse à tout le monde et à nous aussi en particulier. J'espère que ça ne perturbe pas trop le fait que je commente une interprétation symbolique des chiffres. J'avoue que moi-même, je trouvais ça pendant un moment un peu surfait. Je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller là-dedans? Et puis, plus on lit le livre de l'Apocalypse, et plus on se rend compte que quasiment tous, pour pas dire tous les chiffres, ont une valeur et une portée symbolique dans ce livre-là. Donc, on a pris deux fois l'exemple du nombre 7, et si on peut en prendre un autre, on peut prendre, c'est juste pour vous donner un autre exemple, le nombre 12 qui va symboliser ce qui est plein, la plénitude, la totalité. Et du coup, par exemple, quand on se retrouve au chapitre 7, d'accord, au verset 4, où il nous est parlé des 144 000, vous savez que ça a fait couler pas mal d'encre et les témoins de Jéhovah ont fait toute une doctrine pour dire que c'est eux qui ont les 144 000 élus. Mais si on décompose 144 000, c'est 12 fois 12 fois 1000. Et en fait, le premier 12 symbolise la totalité des rachetés sous l'ancienne alliance, multiplié par le deuxième 12, la totalité des rachetés sous les 12 apôtres, la nouvelle alliance, multiplié par 1000, qui est le chiffre le plus grand de la Bible. D'accord? Et du coup, on arrive à un chiffre qui symbolise une foule que l'on ne peut compter et qui englobe l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, parce qu'il n'y a qu'un seul salut et il se trouve en Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'arrivé dans le même chapitre au verset 9, on lit quoi? Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Il est là le 144 000. D'accord? Ce n'est pas un nombre précis de personnes. Voilà. C'est une grande foule que l'on ne pouvait pas compter et qui englobe tous les sauvés de tous les temps, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Voilà, c'était juste une petite parenthèse sur la symbolique des chiffres dans l'Apocalypse. Oui, voilà, c'est important de le savoir en tout cas, et puis après, au fur et à mesure que vous lisez, de vous y intéresser, parce que ça porte quelque chose derrière. On continue? Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soit donné. Que la grâce et la paix vous soient données. C'est une formule, si on a déjà lu le Nouveau Testament, que l'on retrouve dans la plupart du début des lettres de Paul ou des lettres de Pierre. Grâce et paix vous soient données. Et du coup, par là, Jean nous alerte dès le début du livre de l'Apocalypse sur le caractère apostolique du livre. C'est un apôtre qui écrit. Et donc, on doit entendre et écouter ce qui est écrit là-dedans. Alors, j'ai fait deux ou trois fois de ce qu'on appelle de l'intertextualité par rapport à ce livre. C'est-à-dire qu'on va comparer des références, voilà, dont il est parlé ici. Et juste pour vous le dire, parce que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, l'Apocalypse est le livre où il y a le plus de ce qu'on appelle d'intertextualité. C'est le livre qui va citer le plus les autres livres de la Bible. D'accord? Et vous savez quel pourcentage? À plus de 80%. Et encore, là, je tire vraiment en bas. On est plus proche des 90% des écrits dans l'Apocalypse sont des citations, la plupart du temps, de l'Ancien Testament. C'est énorme, hein? C'est énorme. Et donc, grâce et paix, on peut facilement faire un parallèle avec Nombre 6, versets 25 et 26. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Grâce et paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Et cette bénédiction était une bénédiction que les prêtres, les sacrificateurs devaient prononcer pour bénir le peuple de Dieu. Et qu'est-ce que Jean va nous dire au verset 6 de l'Apocalypse 1? Eh bien, il va nous dire que nous sommes tous, vous et moi, des prêtres de Dieu. Nous sommes des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Non plus. On n'est plus des sacrificateurs pour sacrifier des animaux, mais nous sommes des prêtres pour annoncer le sacrifice parfait, celui de Jésus-Christ qui donne grâce et paix au peuple de Dieu. Et c'est ce que Paul, on peut mettre la slide d'après, va aussi dire d'une autre manière en mentionnant que Dieu brille au travers de nous quand nous annonçons l'évangile. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin que eux, ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile. Eux, ils ne peuvent pas voir briller Dieu, de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Nous, ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus, car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, car Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Grâce et paix vous soient données. Nous sommes tous prêtres pour Dieu et nous sommes chargés de répandre par l'Évangile cette même bénédiction que Jean énonce ici. Grâce et paix de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est aussi, on peut faire un autre parallèle, c'est aussi le modèle que Jésus va laisser, par exemple, en Luc 10, quand il envoie les 70. Vous savez, il leur dit, vous allez aller et vous allez demeurer dans les maisons. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Vous laisserez la paix et la grâce. La grâce de la guérison et la grâce du salut. Donc on est vraiment dans ce modèle-là. Grâce et paix vous soient données. Amen. Nous sommes tous prêtres. Combien de fois on l'oublie? Il n'y a pas que Pierre et moi. Nous sommes tous prêtres. Et nous avons tous ce mandat de déposer grâce et paix sur ceux qui nous entourent. Grâce et paix de la part de celui qui, et après on va dérouler les autres, de la part de La bénédiction est donnée de la part du Dieu Trinitaire, le Père, l'Esprit et le Fils. Et alors ce qui est surprenant ici, parce qu'on ne le trouve pas très souvent dans le Nouveau Testament, voire je pense que c'est la seule fois, il est dans un ordre qui n'est pas courant. Le Fils est cité en dernier et l'Esprit en deuxième. Et le Fils est cité en dernier, c'est pas pour rien. C'est parce que Jean veut mettre une emphase particulière et il veut porter notre attention dans cette salutation sur le Fils. Et à la suite va se dérouler ce qu'on appelle une doxologie, c'est-à-dire on va lui rendre honneur et gloire. Mais on commence de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Donc, paraît incontournable dès qu'on lit ça de le comparer à Exode 3:14, quand Moïse, voilà, Dieu se révèle à Moïse et lui dit « Je suis ». Cette formulation signifie quoi? Mais que Dieu est. Il est en tout temps. Et mine de rien, c'est très profond, juste cette phrase-là. Dieu est. Je suis. Il n'existe pas de temps où Dieu n'a pas existé. Je ne sais pas si vous aimez vous triturer le cerveau des fois. Il n'existe pas de temps où Dieu n'a jamais existé. Dieu est de tout temps. Dieu existait avant même que le temps n'existe. C'est difficile à comprendre pour nous, hein? Mais Dieu existait avant même que le temps n'existe. Et si vous lisez des livres de cosmologie, par exemple, clairement, les scientifiques vont dire que le temps est apparu en même temps que l'espace et la matière. S'il n'y a pas de matière pour se déplacer dans un espace, en fait, il n'y a pas de temps. Et comme Dieu est avant la création, il est bel et bien avant le temps et hors du temps. Il est celui qui est. Il est et Dieu. Il était forcément, parce qu'il était avant, et il vient. Cette expression, elle fait mal aux agnostiques de l'époque, mais aussi de notre siècle. C'est quoi les agnostiques? C'est dire, oui, moi je veux bien admettre qu'un Dieu existe là, mais en aucun cas un Dieu qui intervient. Il est là-haut, il fait sa vie, et moi je fais la mienne. Non. Pourquoi? Parce qu'il est, il était et il vient. Cette expression nous rappelle que Dieu intervient dans l'histoire. Il vient dans l'Ancien Testament était utilisé souvent pour signifier la venue du Seigneur pour juger et gouverner le monde et apporter le salut à son peuple. J'ai mis quelques références, psaume 96, 13, 98, 9, Ésaïe 40, 10, Ésaïe 62, 11, Zacharie 14, 5, on peut lire psaume 96, 13, devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Celui qui est, qui était et qui vient, nous permet de conclure que aussi vrai que Dieu existe, il viendra. Amen. Aussi vrai que Dieu existe, il viendra. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, rappelez-vous le bientôt. Il vient bientôt. Ça ne veut pas dire un temps court, ça veut dire de manière inévitable, Dieu vient. On ne peut pas l'empêcher. Jésus et de retour. Dieu n'est pas quelqu'un qui reste assis à regarder l'histoire se dérouler. Il intervient tout au long de l'histoire pour la diriger vers où il veut. Il est celui qui intervient face à l'adversité et les difficultés que peuvent rencontrer ses enfants. C'est basique, mais combien c'est important. Dieu est celui qui intervient dans nos vies. Et un jour certain, inévitable et fixé, où Jésus reviendra et tout œil le verra. Tout œil le verra. Ceux qui auront cru et ceux qui n'auront pas cru. Tout œil le verra. De la part de celui qui est, qui était et qui vient. On continue. Et de la part des sept esprits qui sont devant son trône. Alors, certaines interprétations sur ces sept esprits ont essayé de dire que c'était peut-être sept anges. Mais en fait, jamais dans le livre de l'Apocalypse, les anges ne sont appelés des esprits. D'autre part, si on regarde bien, les sept esprits que l'on voit ici sont mentionnés où ? Entre le Père, celui qui est, qui était et qui vient, et le Fils. Il convient donc d'y lire la présence de la troisième personne de la Trinité, celle du Saint-Esprit. Et on va retrouver cette expression des sept esprits en Apocalypse 4-5, où les sept esprits sont présentés comme étant des flambeaux, ou alors en Apocalypse 5, verset 6, où les sept esprits sont les yeux qui sont où ? Sur l'agneau immolé, seul digne d'ouvrir le livre de vie. Les sept esprits, du coup, c'est donc une image de l'Esprit Saint présent dans les églises à qui Jean écrit, aux sept églises, et à toutes les églises, et à la nôtre aussi. C'est aussi une image en relation, donc comme on l'a dit, avec le chiffre 7, du Saint-Esprit présent partout. D'accord ? C'est la plénitude de la présence dans l'Église, par toute la terre. En gros, il n'y a pas d'Église qui appartient à Jésus où il n'y a pas l'Esprit. Et si ça arrive, en général, qu'est-ce que fait Jésus ? On le trouve aussi dans l'Apocalypse. Il retire le flambeau et il ferme l'Église. Les sept esprits sont donc la mention du Saint-Esprit. Et les sept esprits sont où ? Devant le trône de Dieu, devant son trône, devant le trône du Père. Est-ce que vous saviez que dans le Nouveau Testament, le mot trône apparaît 47 fois ? Ça vous fait une belle jambe. Eh bien, dans le seul livre de l'Apocalypse, on le trouve 35 fois. Waouh ! Sur 47 fois, il y a seulement 12 autres fois ailleurs que dans le livre de l'Apocalypse. Et 3 fois, c'est pour parler du trône de Satan ou de la bête, et 32 fois pour parler du trône de Dieu. Waouh ! Clairement, le livre de l'Apocalypse est donné pour nous montrer combien Dieu règne. D'accord ? Quand on lit devant le trône, Jean veut nous focaliser sur le fait que c'est Dieu qui règne. C'est pas le diable, malgré toutes ses manœuvres. Et même si le diable semble avoir un trône, parce qu'il y a 3 fois la mention, il n'est jamais, jamais fait mention dans tout le Nouveau Testament et dans toute la Bible du diable qui règne. Le diable ne règne pas. Il a une puissance, il a une autorité, il a un trône, mais il ne règne pas. Celui qui règne, c'est Dieu, et son règne est éternel. Amen. Parfois c'est dur ça. Hein? Pour Irina, c'est dur en ce moment avec la guerre en Ukraine. Mais c'est vrai. Et c'est dans le livre de l'Apocalypse qu'on peut s'y plonger complètement. Dieu est celui qui règne malgré nos malheurs, malgré nos difficultés. Mais oui, le livre ne met pas sous le tapis le fait que le diable a un trône. Il a un pouvoir et il fait le mal. Et nous ne sommes pas en dehors, exempts de cette influence. Et il nous fait du mal, mais Dieu règne. Amen. Sur les trois mentions du trône, il y en a 35 pour Dieu. On continue. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Grâce et paix sont données de la part de Jésus-Christ. Ça m'a simplement rappelé, ben, toujours Jean, l'évangile cette fois-ci, quand il dit, je la donne de moi-même en Jean 10, sa vie. Jésus nous fait grâce en nous donnant sa vie. Et puis en Jean 14, il va dire, je vous donne ma paix. Grâce et paix de la part de Jésus-Christ. Voilà. Regardons maintenant les qualificatifs. Le premier, c'est le témoin, Jésus-Christ, le témoin fidèle. Jésus est bel et bien le médiateur par excellence de la révélation divine. C'est lui qui nous transmet ce que le Père veut nous dire. C'est lui qui est le plus apte à le faire. Il est celui qui transmet la parole de Dieu et plus que ça, il est la parole de Dieu faite chair. Il est non seulement le témoin direct de Dieu, lui seul a vu le Père. Vous trouvez ça en Jean 6, 46. Personne d'autre, il n'y a que lui. Mais en plus, il est le témoin fidèle, digne de confiance. On peut aussi croiser avec le psaume 89, 38, comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de croiser avec ce psaume-là? Ben, c'est parce que Jésus, dans l'Apocalypse, est comparé à l'Éternel. Il est comparé à Dieu, tout simplement. Jésus, Jean est en train de nous dire, par cette simple expression, le témoin fidèle, que Jésus est bel et bien Dieu. Il est bel et bien la troisième personne. La deuxième personne de la Trinité. Jean utilisera de nombreuses fois ce procédé dans ce livre et pour nous montrer que Jésus est bel et bien Dieu et qu'il est Seigneur. Et enfin, la dernière remarque que je voulais sortir sur ce mot-là, témoin, qui en grec veut dire martyr. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on a parcouru les actes, on en avait parlé. C'est le même mot qui a donné martyr en français. Et Jésus est donc celui qui, fidèle au plan de Dieu pour le salut des hommes, a donné sa vie. Il a été martyrisé. Il est devenu un témoin jusqu'au sang pour le rachat des élus. Et c'est ce témoin fidèle qui a donné sa vie que nous retrouverons au jour du jugement final. Apocalypse 19, Apocalypse 20, et qui témoignera en notre faveur. Avec quoi? Par son sang. Amen. Waouh, quel titre! Le témoin fidèle. Celui qui, non seulement est le seul qui a vu Dieu, mais celui qui est allé jusqu'au bout du témoignage. Fidèle. Jusqu'à la mort. Amen. Deuxième titre, le premier-né des morts. Waouh. Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité. C'est ce que signifie cette expression, le premier-né des morts. Jésus inaugure la résurrection des morts pour entrer dans la vie éternelle. Il est le premier à ressusciter pour la vie éternelle. Vous savez, on a des histoires de résurrection dans le Nouveau Testament, mais eux, ils ne sont pas encore ressuscités pour la vie éternelle. Dans les nouveaux corps, c'est Jésus qui a inauguré cela. Et nous, étant en lui, eh bien, nous avons cette assurance que parce qu'il est le premier-né d'entre les morts, alors nous aussi, nous ressusciterons dans des corps célestes de la même manière. J'en profite pour dire un petit mot sur dimanche. Pourquoi on se réunit le dimanche? Vous êtes posé la question ou jamais? Eh oui, parce que c'est le jour de la résurrection. Et très vite, dès le livre des Actes d'ailleurs, les disciples se réunirent le premier jour, le jour de la résurrection de Christ. Et en symbole de quoi? En symbole, oula, du premier jour où l'on rentre dans la vie éternelle. Et donc quand on vient se rassembler le dimanche, c'est juste pour nous redonner un petit peu une perspective et un élan. C'est pas quelque part que pour se rassembler, c'est aussi pour venir ensemble célébrer cette entrée pleine et entière qui nous attend dans la vie éternelle. Amen. Et on voit, on découvre tout ça dans le livre de l'Apocalypse. Dernier titre, le prince des rois de la terre. J'ai presque fini, je vous rassure. C'est intéressant. Mais faut être tenu réveillé. Le prince des rois de la terre. Après la résurrection, Jésus est remonté auprès du Père. C'est ce qu'on appelle l'ascension. Et s'est assis sur le trône de David, à la droite de Dieu. On trouve ce passage dans Acte 2, où Pierre en fait cette interprétation-là. Pour quoi? Pour régner sur le trône de David, et cette fois-ci de manière éternelle. Paul avait déjà mentionné, enfin, a mentionné cela en Éphésiens 1, versets 20 et 21. Il l'a déployé en Christ, donc c'est la puissance de Dieu, en le ressuscitant des morts, la résurrection, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de, et là on a la liste, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Waouh. Et c'est ça que Jean est en train de nous dire, le prince des rois de la terre. Jésus est le roi des rois. Mais rappelons-nous, je l'ai rappelé au début, Jean fait cette déclaration à quel moment? Sous l'empereur Domitien, qui a dit quoi? C'est moi le Seigneur et le Dieu. Voilà ce qu'il a dit. Et Jean, il écrit ça. Il dit oui. Peut-être qu'il y a des rois sur la terre, mais il y a le roi des rois qui est là. Jésus nous rappelle ici que les rois de la terre, même s'ils ont un pouvoir, il est temporaire et il est limité face au pouvoir du roi des rois. Celui qui règne, c'est Dieu, et le jour vient et il est proche. Ça veut dire inévitable. Ou, Apocalypse 6, versets 15 à 17, le jour vient où, ah, c'est celle d'après, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de qui? De l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Et Jean finit. Et qui peut subsister? Jean nous rappelle, oui, il y a des rois sur la terre qui essaye de gouverner. Mais un jour, le roi des rois vient. D'ailleurs, on l'a lu dans la suite des versets. Et tous se lamenteront. Tous. Les puissants, mais aussi, il nous est dit, les esclaves et les hommes libres. Tout le monde se lamentera ce jour-là, parce que ils reconnaîtront que le roi des rois est bel et bien vrai. Le livre de l'Apocalypse nous rappelle à chacun de nous de nous convertir, de nous tourner vers Dieu, de nous détourner de notre péché pour marcher selon l'Esprit de Dieu. Parce que il vient de manière inévitable ce jour où Dieu jugera, Paul dira, les profondeurs de notre cœur. Pas juste nos actes, les profondeurs de notre cœur. Il nous rappelle, ce livre, que Jésus est déjà venu et que nous avons dès à présent un accès au seul vrai Dieu. Peu importe les rois de la terre, nous on a un accès au seul vrai Dieu. Et c'est lui que nous devons craindre. Rappelez-vous les paroles de Jésus. C'est lui que nous devons craindre. C'est pas les rois de la terre qui vont essayer de nous mettre la pression pour qu'on les craigne eux. Jésus dit, non, regardez le roi des rois. C'est lui que vous devez craindre. Il nous prévient aussi, vrai que le soleil apporte la lumière chaque matin, que le retour du roi des rois est proche. Voici, il vient bientôt. C'est comme ça que se termine ce livre. Il jugera le cœur de chaque homme et établira son royaume de paix pour l'éternité. Merci Joël d'avoir commencé par cette prière et on finit le culte avec ça. Dieu vient pour rétablir son royaume de paix, shalom, pour l'éternité. On finit les versets qu'on n'a pas eu le temps de dérouler. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Je peux vous inviter à vous lever, on va prier. Merci Père de nous avoir rappelé ce matin que c'est toi qui écris l'histoire. L'histoire en général, mais l'histoire de chacune de nos vies. Oui Seigneur, parfois on a envie de récupérer le stylo de ta main, Seigneur, et d'aller là où on a envie. Mais tu avais déjà prévenu Pierre que tu l'emmènerais là où il ne veut pas aller. Et Seigneur, ce matin, je prie que par la puissance du Saint-Esprit, tu continues de transformer nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions, nous ayons le courage de te donner ce stylo, Seigneur, et de placer toute notre vie entre tes mains. C'est toi qui nous diriges là où tu veux que l'on aille. Parfois, on a besoin de laisser des choses pour pouvoir te suivre. Donne-nous la force, Seigneur. Parfois, on est rempli de stress et d'angoisse, Seigneur, à l'idée de marcher à ta suite. Seigneur, donne-nous ta paix. Cette paix qui surpasse toute chose et qui s'attend, alors que je rentre dans le royaume de Dieu, à ce que j'y trouve tout ce dont j'ai besoin. Et premièrement, la paix. Seigneur, merci aussi de nous rappeler combien tu nous aimes, combien toi tu as tout donné. Tu n'as rien gardé, Seigneur, en retenue, mais tu as offert jusqu'à ta vie pour notre salut. Et ce matin, Seigneur, nous te disons encore merci. Merci de nous avoir sauvés. Et merci d'avoir fait de nous un royaume de prêtres, où à notre tour, nous pouvons aller de maison après maison, annoncer grâce et paix dans toutes les familles de la terre, Seigneur. Et nous prions, Seigneur, que cette année soit encore plus forte dans ce domaine, Seigneur. Nous voulons être tes ouvriers dans ta moisson, Seigneur. Grâce et paix dans toutes les maisons autour de nous, Seigneur. Et que ta grâce et ta paix reposent sur chacune de nos maisons. Amen. Amen. Bonne semaine à tous.